Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Au lendemain de l'annonce par la ministre de la Santé d'un plan de refondation qui prévoit 750 millions d'euros sur 3 ans, le collectif Interurgence, réuni hier en Assemblée Générale, a voté la poursuite du mouvement de grève entamé il y a bientôt 6 mois et même appelé à élargir le mouvement à tout l'hôpital public. Est-ce que c'est le scénario auquel vous vous attendiez ?
On a vu que les revendications ont changé. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, moi j'avais perçu des gens de terrain qui nous disaient que le fonctionnement aux urgences n'était plus bon, qu'ils étaient débordés de boulot, qu'il y avait trop de patients, qu'il fallait réorganiser l'hôpital, qu'il fallait qu'il y ait moins de patients qui viennent aux urgences quand c'était pas indispensable, que les patients puissent sortir des urgences plus facilement, etc. Et ça, le plan y répond. Il répond pleinement, parce que on organise avec un numéro unique de main d'appel, une réponse pour les malades, on fluidifie les filières, etc. Donc on a un vrai plan de 750 millions d'euros, ce qui est pas rien, qui va résoudre quand même énormément de problèmes aux urgences. Et puis il y a une mutation avec l'apparition de grandes centrales syndicales, la CGT, Sud notamment, bientôt FO si j'ai bien lu, qui maintenant ont des revendications plus catégorielles, qui portent sur les niveaux de rémunération du personnel des urgences, le nombre de lits, etc. Et ça, il y a des réponses qui sont apportées, je dirais, chaque année lors de l'examen du budget de la Sécu. Et puis il y a beaucoup de réflexions qui sont entamées, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont, que je trouve à titre personnel, tout à fait compréhensibles sur le niveau de salaire d'un aide-soignant à l'hôpital, la pénibilité du travail d'une infirmière de nuit, etc. Donc on travaille, le dialogue est bon et on avance.
Je précise, puisque je ne l'ai pas dit, que vous êtes médecin, donc que ce sont des sujets que vous connaissez très bien. Le collectif Interurgence, vous l'évoquiez à l'instant, réclame des réouvertures de lits, des recrutements à la hauteur des besoins. Bon, la formule est peut-être un peu vague, mais enfin, on comprend bien de quoi il s'agit. Une augmentation de 300 euros net mensuel pour tous les personnels hospitaliers. Est-ce que ces revendications vous paraissent légitimes ?
Si on prend les problèmes les uns après les autres, il peut être totalement légitime de demander à ce qu'il y ait des lits ouverts dans des hôpitaux saturés, dans lesquels vous avez des lits, des brancards dans les couloirs des urgences, des brancards dans les couloirs des services hospitaliers. Oui, ça est fréquent, en tout cas ça arrive, y compris dans de gros hôpitaux universitaires, et c'est extrêmement pénible quand vous faites une garde aux urgences, que vous êtes à la fois en train de faire du soin et à la fois en train de vous casser la tête pour trouver juste un lit pour votre malade pour qu'il puisse passer la nuit ou quelques jours. Ça, c'est la faute, je dirais, à 30 ans, de difficultés pour planifier l'organisation des soins. La population a augmenté, elle a vieilli. Le profil du malade qui arrive aux urgences, il a plus 70 ans et a un problème de santé. Il a 95 ans, 3, 4, 5 maladies. Il va rester plus longtemps à l'hôpital. Et donc, ce que nous allons faire, c'est qu'au cas par cas, en fonction des hôpitaux, eh bien, discuter avec les directions, avec les équipes, pour faire en sorte de réadapter les lits ouverts aux besoins du service hospitalier. Et puis, il y a la question plus profonde, et qui date celle-ci d'il y a au moins 50 ans, qui est la façon dont on prend soin de celles et ceux qui prennent soin de nous au quotidien. Les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi dans les domaines de l'éducation, qui sont des métiers qui sont historiquement féminisés, très féminisés, et qui ont une reconnaissance sociale moindre que bien d'autres professions. Il y a des réflexions qui sont ouvertes, dans le domaine du grand âge par exemple. Myriam El Khomri a une mission sur la revalorisation des métiers d'aide aux personnes en situation de dépendance. C'est un travail qui est plus long, mais que nous avons pris également à bras-le-corps. Donc c'est ça le message pour les gens qui font grève, en responsabilité d'ailleurs, parce que les urgences restent ouvertes, et heureusement. Et je les remercie pour ça. Et nous travaillons avec eux. Le dialogue est bon. Ça, c'est voilà. Au-delà de la grève, le dialogue est très bon et constructif.
Les mesures structurelles qui sont annoncées vont forcément mettre un peu de temps avant de faire sentir leurs effets. Est-ce qu'il ne manque pas, dans le plan d'Agnès Buzyn, des mesures d'urgence pour les urgences ?
Il y a eu des mesures d'urgence, elles ont été annoncées au début de l'été.
Vous parlez des 100 euros de prime mensuelle?
Mais
je vous demande si c'est ça.
Oui, je vous parle de ça. Vous parle également des mesures d'admission directe de patients âgés, dépendants, sans passer par les urgences. Je vous parle de la numérisation des équipes du SAMU pour qu'on puisse suivre avec eux depuis l'hôpital leurs déplacements et anticiper les arrivées aux urgences. Je vous parle de beaucoup de choses, de beaucoup de mesures qui ont déjà été prises. Et puis de la réforme du financement des urgences qui arrivera dans le cadre du budget de la Sécu. Les urgences sont encore payées un peu à l'activité. C'est-à-dire, plus il y a de patients qui arrivent aux urgences, plus l'hôpital reçoit de l'argent. Ce qui n'encourage pas toujours à organiser une prise en charge en ville, ambulatoire, des soins dits non programmés. Et donc, c'est aussi cela que nous allons faire. Et ça sera à très court terme.
Le projet de loi de bioéthique est examiné depuis hier en commission à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fixé, en quelque sorte, ses lignes rouges hier. La PMA, pour toutes les femmes, est bien inscrite dans le texte. Mais pas question d'aller vers la GPA, la gestation pour autrui. La ministre de la Santé l'a affirmé très fermement. Toutefois, le gouvernement s'apprête à reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. La mesure devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines grâce à une circulaire. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une forme de paradoxe ?
On peut y voir un paradoxe. On peut aussi y voir une décision courageuse. À titre personnel, je l'accompagne très, très positivement, puisque on ne parle pas là des parents, biologiques ou non biologiques, on parle des enfants. Est-ce qu'on peut laisser un enfant évoluer en France, dans notre société, en ayant cette épée de Damoclès de l'incertitude concernant sa filiation? Est-ce qu'on peut laisser un enfant subir finalement les affres de méandres juridiques, judiciaires, français et parfois internationaux, liés au fait qu'on condamne le principe de GPA qui a pu être exercé à l'étranger? Donc encore une fois, c'est pas du tout une voie vers la légalisation de la GPA, c'est pas le sujet. C'est la question qui consiste à dire, un enfant qui vit en France, il a le droit d'être sécurisé dans sa filiation.
Mais ça n'est pas d'une certaine façon plié devant le fait accompli?
Oui, mais la seule personne devant laquelle on ne plierait pas si on ne le faisait pas, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Pour les parents, rien ne va changer. Ils ont leur statut de citoyen à part entière. Ils ont leur propre famille, leur propre toit. L'enfant, lui, il est insécurisé. Donc, on ne peut pas non plus faire ça. Ça ne veut pas dire allez à l'étranger le faire. Ça reste condamnable. Et d'ailleurs, ça reste hors la loi. Et l'ensemble des ministres présents au banc, j'y étais jusqu'à assez tard cette nuit,
peu plus d'une heure du matin,
considèrent et le disent et le réaffirment que la GPA ne fait pas partie du projet. Donc, c'est un vieux débat, on en parle. Moi, j'étais déjà député dans le mandat précédent, dans la loi sur le mariage pour tous, il y a eu la circulaire Taubira qui permettait déjà de simplifier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous avez quelques dossiers de familles avec des enfants qui sont bloqués devant les tribunaux pendant des mois et des mois et des mois et des mois. C'est très insécurisant pour les enfants, encore une fois. C'est à eux que je pense.
Sur la PMA, vous l'avez dit, les débats ont commencé jusqu'à un peu plus d'une heure du matin. Ils ont déjà été relativement vifs. À quel type d'échange, à quel type de débat vous attendez-vous?
Alors vif, moi qui ai subi, je parle de subir les débats du mariage pour tous, pour l'instant les débats ne sont pas vifs comme ils ont pu l'être dans certaines situations. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons déjà soldé le gros de ce débat sur la PMA à l'occasion de l'adoption du projet de loi sur le mariage pour tous. Et donc les oppositions sont évidemment dans leur jeu, dans leur rôle, elles ont participé activement aux auditions. Pour l'instant les débats se passent plutôt bien, on avance assez lentement. Pour tout vous dire, on a examiné 100 amendements en 7 heures de débat sur 2200 amendements. Donc si on continue à ce rythme-là, on se retrouve en octobre quasiment. Donc on va essayer d'accélérer évidemment, on va faire ça jour et nuit. Mais c'est intéressant et les auditions étaient extrêmement intéressantes et les questions qui se posent à nous sont des questions qui justifient d'avoir des débats assez complexes.
Autre question de santé et autre incohérence possible, c'est en tout cas le reproche que vous font les écologistes en particulier, l'utilisation des pesticides aux abords des habitations. Une consultation qui va durer 3 semaines a été lancée lundi sur le sujet. Les discussions se font sur la base des recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui, en juin dernier, avait préconisé des distances de 5 à 10 mètres en fonction des cultures. Encadrer ces pratiques, c'est reconnaître qu'il y a un danger. Dans ce cas-là, pourquoi évoquer des distances aussi faibles? Nous sommes approximativement à 5 mètres l'un de l'autre. Je ne suis pas sûr que si j'épandais des pesticides, vous ne soyez pas touché.
Je vais être franc avec vous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette distance. Effectivement, où l'on considère qu'il y a une dangerosité avérée des pesticides, et c'est le cas à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, pour un grand nombre de produits, et auquel cas on prévient évidemment, notamment pour les plus jeunes, pour les femmes enceintes ou les publics âgés qui ont des problèmes respiratoires, l'exposition à ces pesticides et une distance de 5 mètres me paraît assez faible, où l'on considère que la dangerosité n'est pas avérée, dans ce cas-là, on continue d'avancer et de travailler. La santé environnementale n'est qu'à son début. On est en train de balbutier en santé environnementale, mais ce que je retiens, et ça c'est positif, c'est qu'on prend le taureau par les cornes maintenant et qu'on est capable de poser sur la table des sujets qui, il y a 3 ou 4 ans, auraient fait hurler tout le monde. On est capable aujourd'hui de commencer à dire, on va éloigner les populations de l'exposition à un certain nombre de molécules qui sont d'usage courant depuis des décennies dans notre pays. Ben oui, il faut qu'on avance, sinon la fertilité masculine continuera de baisser. Sinon, le nombre de cancers continuera d'augmenter, les malformations néonatales également.
Merci Olivier Véran, bonne journée.